Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. La scène filmée vendredi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche a fait le tour des réseaux sociaux et des télévisions du monde entier. Volodymyr Zelensky, tensé, humilié, menacé par Donald Trump. Que vous inspire cette altercation d'une violence inédite publiquement entre deux chefs d'État? L'accord que les États-Unis veulent imposer à l'Ukraine pour en finir avec la guerre signe-t-il la victoire de Vladimir Poutine? Pourquoi le président américain s'est-il aligné sur le discours du Kremlin? Comment Donald Trump en est-il arrivé à réécrire l'histoire en accusant l'Ukraine d'être l'agresseur alors que c'est la Russie qui a envahi son voisin le 24 février 2022? La loi du plus fort va-t-elle désormais l'emporter sur le droit international? On lance tout de suite le débat. Lucien, bonjour.
Bonjour madame.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lucien, comment avez-vous réagi à cette vive altercation vendredi entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky?
Ok, madame, j'ai été très choqué, j'ai été sidéré. J'ai été franchement choqué de voir combien de fois il a humilié le président quand même d'un pays souverain. Il a manqué de respect au peuple ukrainien. Franchement, j'ai été vraiment sidéré. J'ai encore les mots pour qualifier.
Est-ce que vous pensez que Donald Trump et son vice-président J.D. Vance avaient prémédité ce qui ressemblait fort à un traquenard?
Tout à fait, madame, c'est planifié. Donald Trump, moi je pense que, bon, peut-être que c'est maintenant, parce que Donald Trump, il y a longtemps qu'il n'est pas en faveur de l'Ukraine. Donc ça fait quand même longtemps que les Américains ont abandonné l'Ukraine, ça il faut le dire. On se souvient encore quand même de toute la bataille qui a eu lieu au Congrès où on a bloqué, où on avait bloqué même l'aide pour l'Ukraine. Donc je veux dire que c'est vraiment un truc qui est vraiment planifié de longue date. C'est-à-dire qu'il cherche la petite bête, puisqu'il veut se débarrasser de l'Ukraine, donc il cherche la petite bête.
Voilà, Donald Trump a qualifié Zelensky de dictateur. Il fait de l'Ukraine l'agresseur et de la Russie la victime, l'agressée. Comment expliquez-vous cet alignement américain quand même sur le Kremlin?
Bon, je crois que les États-Unis, ils pensent quand même qu'il y a deux cas. On va dire que dans le meilleur des cas, peut-être qu'ils n'ont plus la politique, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Et dans le pire des cas, peut-être qu'ils ont sa volonté, mais franchement, sinon quand je regarde la situation, j'ai l'impression que les Américains, véritablement, n'y prennent plus pour principe la démocratie. Hein, ou du moins, ce régime est mu par une seule chose, par l'intérêt.
Donc c'est que le business qui compte et plus le droit et plus la démocratie.
C'est que le business qui compte maintenant pour les Américains. Et c'est cela. Moi, j'estime que c'est le plus grand coup porté à la démocratie de tous les temps. C'est quasiment sans précédent.
Merci donc, beaucoup, Lucien.
C'est que le business qui compte. Et ce pays, malheureusement, je pense qu'il dit clairement que c'est un pays là, on ne peut plus compter sur eux. Donc c'est vraiment une opportunité pour l'Europe et pour l'Afrique, n'est-ce pas, de prendre en main leur destinée et de ne plus compter sur les États-Unis. Ils ne méritent plus qu'on compte sur eux.
D'accord, merci beaucoup Lucien, on a bien compris votre point de vue. Eh bien, on va partir pour les États-Unis justement. Moussa, bonjour, vous nous appelez de New York.
Bonjour, madame.
Alors Moussa, la scène de vendredi vous a-t-elle étonné, vous aussi?
Pas étonné, parce que connaître l'homme qui était en face, Donald Trump, j'étais seulement choqué, comme mon précédent qui vient de parler, parce que tout c'était déjà organisé, planifié pour humilier le président ukrainien, que je salue de passage, vraiment qui a tenu tête face à Donald Trump et son vice-président, J.D. Vance, juste pour s'expliquer avec J.D. Vance qui parlait de solutions, qui accusait Zelensky de ne pas vouloir...
De ne pas vouloir la paix.
La paix, et puis juste Zelensky lui corriger devant les caméras du monde entier pour lui dire de quelle paix vous parlez, parce que personne n'a confiance à Poutine. Poutine a déjà violé le cessez-le-feu, puis Poutine n'a pas de respect, et puis juste vouloir humilier parce qu'il lui a corrigé dans la Val Office, et puis juste pour lui dire que vous n'avez pas de respect, vous n'avez jamais dit merci,
Alors que Zelensky a remercié à de multiples reprises les États-Unis. Moussa, est-ce qu'il y a eu des manifestations aux États-Unis et à New York en particulier contre cette politique américaine désormais ouvertement pro-russe?
Non, il n'y a pas de manifestation. Bah, juste hier, parce que Jerry Vance était parti en week-end faire des skis, mais quand même les gens ont manifesté devant pour dire qu'il travaillait pour la Russie, qu'il était l'espion de la Russie.
Oui, on l'a accusé d'être une marionnette dans les mains de Vladimir Poutine. La Russie,
parce que les gens étaient choqués, le pays est divisé, tout. Les gens n'ont pas apprécié. 62% des Américains soutiennent l'Ukraine. Le sondage, donc tout ça...
Et 4% la Russie, mais 44% ne soutiennent ni l'un ni l'autre.
Ouais.
Merci beaucoup, Lucien, d'avoir veillé à New York et d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous. On part pour Dakar, retrouver Rama. Bonjour, Rama.
Oui, bonjour.
Ouh là là, il y a du bruit autour de vous. Rama, qu'avez-vous pensé de l'altercation donc, de vendredi dans le bureau de la Maison-Blanche?
Bon, moi, j'ai pas été choquée quand même par cette altercation. Et moi, je m'y attendais. C'est du Donald Trump, en fait. Trump, on le connaît pour ce ton condescendant. Donc, c'est vrai que derrière Zelensky, il y a tout le peuple ukrainien qu'il faut respecter. C'est vrai, il y a eu un manque de respect manifeste. Mais au-delà de ce ton condescendant, moi, je pense que sur le fond, quand même, Trump a raison.
Pourquoi?
On ne peut pas s'engager dans une guerre et ne pas avoir les moyens de cette guerre, en fait. Parce que Zelensky s'est engagé dans cette guerre en comptant sur l'OTAN pour pouvoir faire face à Poutine. On connaît Poutine pour être un homme de guerre. Donc moi, je pense que dès le départ, Zelensky aurait dû s'engager dans des négociations avec Poutine. C'est vrai que Poutine est l'envahisseur.
Oui, mais Poutine voulait...
la communauté internationale qui est là.
Poutine voulait conquérir toute l'Ukraine. Qu'il voulait, disait-il, dénazifier.
Voilà, c'est-à-dire que Poutine voulait conquérir toute l'Ukraine. Il y a la communauté internationale qui est là, qui n'aurait pas dû laisser Poutine, en tout cas, aller comme ça, envahir toute l'Ukraine. Donc je pense que dès le départ, comme l'Ukraine n'avait pas les moyens de cette guerre, en fait, il n'aurait pas dû compter sur l'OTAN pour mener cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un changement de régime aux États-Unis.
Oui, mais l'Ukraine a choisi de se défendre. Est-ce que c'était un choix?
On en dit qu'on vient pas.
Est-ce que c'était un choix de capituler?
Bon, la capitulation, parce que là, il n'a pas un autre choix que de capituler, en fait. Parce que Donald Trump, il a hier suspendu tout l'armement qu'il donnait à l'Ukraine pour mener cette guerre. Donc aujourd'hui, il va faire comment? Il est en train de Zelensky sur le monde entier pour demander de l'aide et tout ça. Pour
oui, peut-être
moi,
peut-être que les Européens vont réussir à s'unir et à se réveiller et à passer à une économie de guerre pour produire davantage d'armement et pouvoir faire face aux appétits russes, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Bon, moi, je ne pense pas parce que les Européens étaient là dès le départ. Dès le départ, il y avait les Européens, il y avait les États-Unis au temps de Joe Biden. Mais l'Ukraine n'est pas venue au bout de cette guerre, en fait.
Oui, mais les Européens ont donné à l'Ukraine les moyens de ne pas couler, mais pas forcément les moyens de l'emporter. C'est peut-être ça le problème.
Ben, peut-être que maintenant, espérons que les Européens vont se réveiller. Comme vous venez de le dire, ils vont se réveiller et donner à l'Ukraine les moyens de gagner cette guerre. Mais sans ça, moi, je pense que ce qui est désolant, en fait, dans ça, le scénario qui se dessine, en tout cas, devant nous, c'est le scénario de la capitulation. Et si Zelensky capitule, ce serait un précédent dangereux pour l'humanité.
Voilà.
Parce que ce serait faire primer la force sur le droit international. Et nous, autres pays africains, nous comptons sur la communauté internationale, en tout cas pour raisonner certains de nos dirigeants qui viennent pistolet à la temple, des hommes entrés qui ne sortent de nulle part, qui viennent arracher les pouvoirs. Donc la CEDEAO est en perte de force. Donc nous comptons sur cette communauté internationale pour pouvoir raisonner ces hommes-là. Maintenant, si aujourd'hui le droit international recule devant la force, je pense que c'est désolant pour le monde entier. Et c'est le scénario qui se dessine dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Merci beaucoup, Rama, d'être intervenue dans ce débat. On va partir pour Ziguinchor, toujours au Sénégal. Abdoulkader, bonjour.
Bonjour, Santal.
Alors, humilier publiquement Zelensky, l'accuser de ne pas vouloir la paix, lui ordonner de quitter la Maison-Blanche, est-ce que cette façon de se comporter quand on est le président des États-Unis vous a choqué?
Non, ça ne m'a pas du tout choqué parce que ça ne me surprend pas du tout de la part d'un président comme le président Trump. Comme vous le savez, Ce qui s'est passé le vendredi n'est pas du tout surprenant pour un observateur averti de la géopolitique mondiale. En réalité, le président Trump a toujours eu une attitude conciliante envers le président Vladimir Poutine.
Pourquoi? Donc, il aime les hommes forts, il aime la virilité que supposément Vladimir Poutine dégage?
Non, apparemment, mais ce qui est grave, c'est que le président Poutine est allé jusqu'à contester la légitimité même du président ukrainien. Alors que tout le monde sait dans quelles conditions Vladimir Poutine a été élu en Russie. Donc aujourd'hui, le président Trump a décidé d'offrir l'Ukraine et son président sur un plateau d'argent au président russe. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Le peuple ukrainien ne fait que défendre un droit qui est internationalement reconnu, c'est-à-dire l'intangibilité de ses frontières.
Abdoulkader, est-ce que vous partagez la crainte des Européens sur les visées expansionnistes de la Russie en cas de capitulation ou de défaite de l'Ukraine?
Absolument, c'est une logique, mais c'est la logique la plus claire de Poutine, qui a déjà envoyé la Crimée, qui a déjà envoyé d'autres pays et qui continue à suivre son appétit. Trump a un appétit insatiable, et il faut véritablement l'arrêter. Et je pense que les Européens ne doivent pas croiser les bras pour laisser Trump offrir l'Ukraine à Poutine sur un plateau d'argent.
Merci beaucoup Abdelkader. Bonne journée à Ziguinchor. On part pour Yaoundé. Bonjour Jean-Lucien.
Oui, bonjour.
Jean-Lucien, en voyant Donald Trump épouser le discours de Vladimir Poutine, réécrire l'histoire en qualifiant l'Ukraine de pays agresseur, est-ce que les Européens, selon vous, doivent admettre que les États-Unis ne sont plus leurs alliés?
Je pense que les Européens doivent l'admettre et je pense que ils auraient dû se préparer à ce scénario parce que qu'est-ce que vous croyez quand ce que j'appelle l'establishment, quand vous prenez toute l'Europe occidentale, à part en Europe, il n'y a eu que Fico, le premier ministre slovaque, le premier ministre hongrois et à quelque chose près, la première ministre italienne qui était pro-Trump pendant la campagne électorale. Tout le reste, c'était pour l'élection de Kamala Harris. Et Trump, il a bien retenu cela. Maintenant, il fait payer à ces gens-là leur soutien.
Ah, vous pensez que c'est l'heure de la vengeance pour lui?
Ah ben oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est bien l'heure de la vengeance. La manière dont il a parlé au président ukrainien la dernière fois, en fait, il humiliait le président ukrainien, mais derrière lui, c'était toute l'Europe. Et je vais vous dire, en plus de ça, Trump n'a pas oublié que pendant son premier mandat en 2019, il a demandé au président Zelensky de lui envoyer des informations ou d'engager des procédures judiciaires contre le fils Biden.
Hunter.
Sur certaines activités que celui-ci, Hunter Biden. Mais Zelensky ne l'a pas fait.
Donc, il se venge de Zelensky.
Mais oui, on peut penser que ce sont des détails, mais en fait, c'est pas, le diable est dans les détails.
Jean-Luc,
je vous dis... Oui.
Oui, Jean-Lucien, vous avez déclaré à notre équipe hors antenne « Je ne suis pas pour ou contre Trump, je constate simplement que c'est un miroir pour les pays européens ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais quand j'ai dit un miroir, c'est ce que Trump, lui, l'a fait en mondovision, devant les écrans de télévision. Mais nos présidents ont subi ou subissent durant la Françafrique, c'est de cette manière que nos présidents ont souvent été humiliés.
Ah, vous pensez que ce type d'altercation, de passe d'armes verbales s'est déjà produit entre des chefs d'État, mais à huis clos?
Ah ben oui. Et je vais vous dire, il y a une fois, on a eu des fuites, c'était lors de la rencontre entre le président Chirac, de Villepin, qui était à ce moment-là, je pense, secrétaire général à l'Élysée, et le président Gbagbo. Mais nous avons eu quelques fuites sur la conversation qui a eu lieu à l'Élysée entre ces trois-là. Mais c'était révélateur de ce que nos chefs d'État subissent. C'est pourquoi nous avons toujours, nous, Africains, appelé nos chefs d'État des sous-préfets ou des représentants de la France. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun pouvoir. C'est le pouvoir et ce qu'on appelle le droit international, c'est la loi du plus fort. Et Trump est en train de faire la loi du plus fort. Parce qu'aujourd'hui, les Européens n'ont pas les moyens de leur politique. Ils ne peuvent rien imposer. C'est pour ça que quand les Russes disent que les Européens n'auront pas le droit de citer autour de la table des négociations, et ni même les l'Ukraine. Mais est-ce que si les Américains et les Ukrainiens et les Russes décident de ce qu'ils doivent faire ou du type de paix qu'ils doivent avoir en Ukraine, les Européens auront-ils les moyens de s'opposer? Jamais. Ni l'Ukraine n'aura pas les moyens de s'opposer. voilà déjà qu'il dit qu'il suspend l'aide américaine, l'aide militaire américaine à
l'Ukraine. Merci.
Oui, vous pensez qu'avec ça, l'Ukraine va s'en sortir? Moi, je crois que non. Les Européens, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de leur politique.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Lucien. Je suis désolée d'interrompre l'échange avec vous, mais on a beaucoup d'auditeurs ce matin qui attendent au standard. Jean-Lucien, bonne journée à Yaoundé. On va partir pour Londres, où nous attend Abdoulaye. Bonjour, Abdoulaye.
Bonjour madame, comment allez-vous?
Très très bien, merci. Alors quand on voit un pays démocratique comme les États-Unis suspendre son aide militaire à l'Ukraine, hein, c'est ce que disait Jean-Lucien à l'instant, et appuyer la Russie, pays qui a envahi l'Ukraine, hein, c'était le 24 février 2022 à l'aube, vous ne craignez pas que désormais la loi du plus fort l'emporte sur le droit international?
Absolument. Ça me pousse même à remettre en cause un peu ce que vous dites là en introduction. Est-ce que c'est vraiment un pays démocratique? Parce que la loi du plus fort ne marche pas dans les pays qui se disent réellement démocratiques. C'est même l'occasion pour moi de dire que oui, je suis à Londres, mais je suis nigérien, du Niger qui vit à Londres. Je suis très, très fier aujourd'hui d'être nigérien, le Niger qui fait partie de l'ALES, parce que je suis persuadé que si demain l'occasion se présentait pour Donald Trump de se présenter et de recevoir un des présidents de l'AES, il ne va pas du tout, en tout cas ces pays, ces présidents de l'AES ne vont pas du tout riposter comme Zelensky l'a fait. C'est vrai que c'est la loi du plus fort, mais nous sommes dans un monde où il faut se respecter. Si vous vous respectez, même si la personne est forte ou elle pense être forte, elle va vous respecter. Elle va vous respecter. Donc je pense que Zelensky a raté son occasion de marquer son empreinte dans l'histoire, parce qu'en tant que président, on ne peut pas se ridiculiser comme ça, même si on est pauvre. Je dis, je suis du Niger.
Mais vous trouvez qu'il s'est ridiculisé, Zelensky?
Oui, c'est ridiculisé parce que
pourquoi
vous ne pouvez pas inviter quelqu'un chez vous et s'adresser et l'adresser de cette manière et même laisser les journalistes et l'attaquer. C'était triste. Comment est-ce qu'un journaliste ou un Américain peut poser la question à Zelensky sur sa tenue vestimentaire? C'est ridicule. Je suis persuadé que Trump ne va pas s'adresser au président ou au cheikh. Les autorités saoudiennes ou des Émirats qui se présentent là-bas. Ils ne se présentent presque jamais en costume. Ils décident de se présenter comme ils veulent.
Merci, voilà. Merci Abdoulaye. Bonne journée à Londres. On repart au standard. Mamadou nous appelle de Bamako. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Alors, quelle leçon tirez-vous de ce qui s'est passé vendredi à la Maison-Blanche?
Moi, pour vous dire franchement... Je ne suis pas du tout d'accord avec mon frère qui vient de passer.
Ah.
Ce n'est pas Zelensky qui s'est ridiculisé. J'ai eu honte pour l'Amérique à travers son président. Je suis désolé, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai trouvé que la fonction présidentielle avait été vidée de son essence. L'Amérique a été insultée, la démocratie insultée, le bon sens insulté, toutes les valeurs humaines foulées aux pieds par une oligarchie trumpiste qui finalement se moque du monde, qui fait ce qu'elle veut, qui se couche devant Poutine et qui, comme si cela ne suffisait pas, nous amène dans un révisionnisme fait de Zelensky l'agresseur et de Poutine l'agressé. C'est incroyable.
Bien Mamadou, c'est avec vous
oui.
Et votre désarroi hein, qu'on va terminer cet appel, cette deuxième partie d'appel sur l'actualité. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. André Rakovic, Chloé Gomez, Maud Georget, Margot Pommier et Raphaël Pazuello. Merci également à Arès Siradag à la réalisation, Lorraine Nemoza au standard et Fouquefoleur aux réseaux sociaux. Demain, vous retrouverez à ce micro Juan Gomez. Au Gabon, après des mois de faux suspense, la candidature de Brice Clotaire, Oligimi Nguema, le tombeur d'Ali Bongo est désormais officiel. Il se lance dans la course à la présidentielle du 12 avril. Quelles sont ses chances de remporter le scrutin? Juan Gomez lancera le débat. On vous attend. Dans 10 minutes, vous avez rendez-vous avec Priorité Santé et Caroline Paré. Et dans un instant, c'est le retour de l'info.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.